Mémoire d'un jeune homme rangé, cinquième partie. Cependant, le lendemain, le fils rebelle crut bon d'aller embrasser, pour ne pas se poser en ennemi, sa mère, son père, sa tante et son oncle Émile, dont la moustache le matin sentait toujours un peu le café. C'est ainsi qu'il les embrassait matin et soir, et chaque fois qu'il les rencontrait sur son chemin. Au déjeuner, ni au dîner, on ne fit aucune allusion, et ce fut ainsi les jours qui suivirent. Après le repas, Daniel montait dans sa chambre ou passait dans une autre pièce. Il était bien entendu qu'il allait chez les Voreaux, mais il ne voulait pas effectuer de sortie directe. Pendant 8 jours, ses parents continuèrent à ne rien dire. Parfois, M. Henri descendait du train avec M. Voreaux. Il causait poliment de toutes sortes de choses. Mais évidemment, il n'était pas question du mariage. D'ailleurs, avant ces dernières histoires, il n'en parlait pas davantage, puisque ce mariage ne devait se faire qu'un an plus tard, et qu'on avait dit plusieurs fois qu'on avait bien le temps d'en parler. Les Henri, qui passaient généralement 2 ou 3 soirées par semaine au chalet Voreaux, ne s'y rendirent pas pendant ces 8 jours-là. La tante Amélie était de retour, et sa santé chancelante était une excuse permanente et vraiment très commode à toutes les défections. Il y a des familles où l'on semble entretenir soigneusement des parents malades pour refuser des invitations à dîner. Mais ce qui sembla plus grave à Daniel, c'est que ses parents n'invitèrent pas les Voreaux. Il paraissait naturel qu'un dîner de famille fût organisé pour présenter à l'oncle et à la tante leur future nièce. Daniel, inquiet, se figura que les Voreaux avaient remarqué cette abstention. Il épia certains signes de gêne et de rancune. Il lui suffisait d'être à l'affût de ces marques de froideur pour en trouver toujours. Il en arriva très rapidement à juger que la situation était insoutenable. Un soir, il rentra chez lui fort surexcité. Dans son insomnie, il vit toute la famille Voreaux gravement affectée par l'attitude de monsieur et madame Henri. Il prit une résolution pour s'endormir. Il décida qu'il irait parler à monsieur Voreaux. « Ah !» se disait-il avec impatience. « Je voudrais être à demain, pourvu que demain ne soit pas trop tard. » Il fallait expliquer à M. Voreaux la bouderie des Henri et ajouter que lui, Daniel, méprisait les questions d'argent et resterait à jamais fidèle à son amour ainsi qu'à la parole donnée. Il hésitait d'autant moins à faire cette démarche qu'il était à peu près sûr de la réponse de M. Voreaux. Cette réponse serait « Vous êtes un noble jeune homme » ou quelque chose d'approchant. Le lendemain le trouva encore dans les mêmes dispositions. Il était d'ailleurs trop faible pour revenir sur une résolution dangereuse et avait trop peur d'être lâche pour se permettre une reculade. À 3 heures, il descendit du train à la gare du Nord et se rendit au bureau de son futur beau-père. Malgré les renseignements inquiétants qu'il avait maintenant sur la maison Voreaux, l'austérité des grillages l'intimida, ainsi que l'activité indifférente des employés et la tranquille rudesse des garçons en uniforme qui venaient verser de l'argent ou toucher des chèques. De l'or et des billets, sans ostentation, entraient ou sortaient des guichets. On introduisit Daniel dans une petite chambre d'attente, claire et sans meubles. Monsieur Voreaux, très pressé, sortit d'une pièce à côté. « Bonjour, mon ami. Je ne vous reçois pas dans mon cabinet chez quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service ?» Ils étaient tous deux debout près de la fenêtre, au grand jour. Monsieur Voreaux avait posé sa main sur l'épaule du jeune homme. Il baissait sa tête robuste, tortillait sa moustache et pensait à autre chose. « Voilà, dit Daniel, je tenais à vous voir. » car je pensais que vous aviez cru remarquer chez mes parents une certaine froideur. « Une certaine froideur ?» dit M. Voreaux en relevant la tête, un peu étonné. « Pourquoi ça ? Voilà, dit Daniel, voilà. On a dit, c'est-à-dire on a raconté à mon père des choses, que vos affaires n'allaient pas comme vous vouliez. Monsieur Voreau releva la tête et regarda Daniel fixement. Daniel continua très vite. Alors, papa m'a dit cela, et nous avons eu une scène. Je lui ai répondu que je n'épousais pas votre fille pour de l'argent, que je l'aimais. Je suis venu pour vous dire que les questions d'intérêt n'existent pas pour moi, et que l'attitude de ma famille ne modifiera jamais mes projets.
« Qu'est-ce que ça signifie ? »
dit sévèrement M. Voreau. « Où voulez-vous en venir ? Enfin, répondez, quel est le sens de cette démarche ? Est-ce vos parents qui vous ont envoyé ? Je n'aime pas les faux fuyants, ni l'équivoque, cher monsieur. »
« Ce n'est pas mes parents, » dit faiblement Daniel.
« C'est moi qui suis venu de mon gré. Je n'ai consulté personne. J'ai fait cette démarche à l'insu de tout le monde. J'ai voulu vous éclairer sur mes sentiments. »
« Je n'aime pas beaucoup ça, » continua M. Voreau sans l'écouter. « J'irai voir monsieur votre père et je lui demanderai des explications là-dessus. Je m'étonne qu'il ne soit pas venu me trouver lui-même au lieu de vous envoyer. Il sait où je demeure. »
« Mais je vous donne ma parole que ce n'est pas papa qui m'a envoyé. »
« Je le verrai à ce sujet. Je ne vous reconduis pas, » dit-il en serrant hâtivement la main de Daniel. « J'ai du monde dans mon cabinet. Au revoir. »«
Au revoir, monsieur, » dit Daniel. « Mais je voudrais que vous ne vous trompiez pas sur le sens de ma démarche. »«
Oui, c'est bon, au revoir. »
Daniel traversa la salle et descendit l'escalier sans penser à rien. Puis, dans la rue, il se mit à marcher très vite, et la tête droite, comme le personnage biblique à qui le Seigneur avait défendu de se retourner pour regarder derrière lui le feu du ciel et ses ravages. Mais il consentait rarement à s'avouer qu'il avait fait une fausse démarche. Il convint donc avec lui-même, quand il ralentit son allure, qu'il valait bien mieux que les choses se fussent passées de cette façon, et qu'ainsi son père et M. Voreau auraient une explication nette. Chapitre 23. La fiancée. M. Voreau ne parla point chez lui de la visite de Daniel. Du moins, le lendemain, après déjeuner, Mme Voreau ne semblait au courant de rien, quand le jeune homme entra dans la salle à manger vitrée où Berthe travaillait avec sa mère. Le mois de septembre était un peu frais. On avait renoncé aux robes d'été. Berthe portait un costume de drap gris, une veste unie, montante, avec un petit faux col blanc. Quand Daniel arriva, elle était en train de bâtir un chapeau avec d'anciennes plumes qu'elle ajustait sur une forme de feutre neuve. Elle avait entre les lèvres deux épingles qu'elle retira sur la prière de Daniel, qui craignait de les lui voir avaler. Il s'assit à côté d'elle et la regarda impatiemment. Il n'avait rien à lui dire et ne pensait qu'à aller l'embrasser dans une autre chambre. Comme Madame Voreau se levait pour aller baisser un peu le store, Daniel dit à Berthe à demi-voix
« Allez chercher des rubans dans la lingerie. »
Depuis qu'ils étaient fiancés, on ne les empêchait pas de rester seuls ensemble, mais Madame Voreau faisait toujours son possible pour les déranger. Berthe ne se leva pas tout de suite, elle acheva de fixer une plume sur le devant du chapeau. Daniel trouvait qu'elle n'en finissait pas. Il lui poussa légèrement le genou. Enfin, elle quitta sa chaise. Mais elle resta longtemps encore à tourner le chapeau sur son poing, puis elle essayait devant la glace. Elle regarda Daniel. « Comment le trouvez-vous ? » Il répondit sèchement. « Bien. » Elle fronça le sourcil, comme lorsqu'elle disait « méchant ». Puis elle s'en alla vers la lingerie, qu'un grand salon, dont les portes étaient ouvertes, séparait de la salle à manger. Daniel, pour ne pas la suivre immédiatement, s'astreignit à faire quelques pas de long en large avant de sortir. Puis il se dirigea innocemment vers la porte du salon. Mais la perfide Madame Voreau, qui lui avait à peine parlé jusque-là, choisissait toujours le moment où il allait rejoindre Berthe pour s'intéresser à lui et lui poser des questions auxquelles il était obligé de répondre. Il dit brièvement que sa tante allait très bien pour éviter les dangereux sujets de ses maladies, qui eût nécessité d'interminables détails. Comme il était tout près de la porte, Madame Voreau l'arrêta encore et lui demanda si ses parents comptaient rester tout le mois à la campagne. Il répondit « Ça dépendra du temps ». Et feignit de remarquer brusquement un tableau dans le salon en s'écriant « Tiens, je n'avais jamais vu ce paysage-là ». Madame Voreau sembla quitter innocemment son ouvrage, le posa sur une table et passa elle aussi dans le salon pour admirer le tableau en question. Daniel était déjà auprès de Berthe, qui paraissait très affairée à remuer de vieux coupons d'étoffe dans le bas d'une armoire normande. Madame Voreau entra à son tour dans la lingerie. On garda autour de la gêneuse un silence obstiné. Daniel, le front contre la fenêtre, tapotait les carreaux. Enfin, la mère de Berthe, n'osant tout de même pousser plus loin les hostilités, se retira en disant à sa fille « Viens plutôt dans la salle à manger. Tu commences toujours un ouvrage et tu ne le finis pas. » Daniel s'approcha de Berthe, qui lui tendit ses lèvres et sembla pâmer entre ses bras. Daniel l'entraîna bien doucement du côté du mur afin de s'y appuyer le dos. Dans ses étreintes, c'est au jeune homme qu'incombe tout naturellement le soin de maintenir l'équilibre du groupe. Il en résulte pour lui une préoccupation et un effort musculaire qui ne sont pas sans gâter son plaisir. Il y avait déjà longtemps que ces baisers silencieux avaient remplacé pour eux toute espèce de conversation. Les quelques mots qu'ils échangeaient n'étaient pas des paroles. Ils disaient « Je t'aime, tu m'aimes ?» Comme on dit « Allô, allô ?» Depuis quelques jours, son amour pour Berthe s'était modifié. Pendant longtemps, il n'avait pas considéré sa fiancée comme une femme. Et voilà qu'une nuit, dans un songe, il l'avait serrée dans ses bras, presque nue. Ceci se passait d'ailleurs en pleine salle à manger des Voreau, en présence de toute la famille et d'un ancien professeur de quatrième de Daniel, spectateur imprévu de cette aventure. Depuis cette nuit-là, Daniel avait regardé Berthe avec d'autres regards. La pensée qu'elle était faite comme une autre femme l'affolait. Il l'aimait d'une sorte d'amour incestueux. C'était comme une profanation de son amour ancien. Il souhaitait maintenant d'être son amant, avec plus d'impatience et un peu d'effroi. Avant que son amour eût cet aspect nouveau, il avait souvent pensé qu'il irait bien quelques jours jusqu'à la possession complète, mais il n'en percevait pas les détails. Cet événement s'accomplissait dans une extase vague, par une espèce de tour de passe-passe vertigineux, tel qu'on en voit dans les romans, où des amants en juste au corps ou en redingote possèdent néanmoins très rapidement les dames, comme un papillon se pose sur une fleur. Maintenant que Daniel envisageait cet acte essentiel, il était effrayé des diverses formalités qu'il nécessite. Il avait dit à Berthe à plusieurs reprises « Je veux que vous soyez à moi ». Berthe répondait « Oui, oui ». Il poursuivait « Quand voulez-vous être à moi ? Bientôt ?» Elle disait « Bientôt ». Il l'étreignait alors avec plus d'ardeur, sans exiger une date précise. Il la traitait comme ses amis à qui l'on dit « Votre couvert est mis chez moi, venez dîner prochainement, prochainement !» sans fixer le jour. Chaque fois, cependant, qu'il se rendait chez les Voreau, il espérait tout du hasard et se disait « C'est peut-être aujourd'hui que ça va se passer ». Il pensait bien ne rien provoquer, mais il imaginait que, dans une sorte d'emballement, Berthe murmurerait « Prenez-moi ». Ainsi, mis au pied du mur, il serait bien, croyait-il, obligé d'en profiter. Il était d'autre part obsédé par la crainte de ne pas paraître assez passionné
en ne sollicitant pas une faveur qu'on était peut-être disposé à lui accorder. Ce jour-là, du moins, il se sentait couvert par la présence de Madame Voreau, qui interdisait toutes les audaces. On l'entendit qui appelait « Berthe ! Berthe !» depuis la salle à manger. Berthe cria « Me voici !» Elle ramassa quelques rubans et alla retrouver sa mère, non sans avoir confié une dernière fois ses lèvres à son fiancé, pour un baiser ardent et rapide, comme il les aimait. Daniel ne rentra pas tout de suite dans la salle à manger. Il s'était vu très rouge dans une glace, avec des yeux brillants. Mais il ne pouvait pas s'éterniser dans la lingerie. Il revint auprès de Madame Voreau, en appuyant sa main sur son front et en répétant « Je ne sais pas ce que j'ai le sang à la tête. » Il quitta d'ailleurs bientôt ces dames pour rentrer à la maison. Il avait hâte d'être seul et de pouvoir songer à Berthe. Il s'étendit sur son lit, ferma les yeux et couvrit son oreiller de baisers frénétiques. Il usait sa passion dans ces crises violentes. Cette fois encore, il en sortit écœuré, et l'image de Berthe lui apparut toute dénuée maintenant de son charme. Il se disait « Est-ce que je serai vraiment ainsi quand elle sera ma femme? Est-ce que tout à coup je ne lui voudrai plus rien? Je n'aurai plus rien à lui dire? Son visage sera-t-il comme maintenant d'une insoutenable fadeur? J'ai peut-être tort d'engager ma vie. Je crois que je ne l'aime pas. » On frappa à la porte de sa chambre. « Monsieur, votre papa vous attend, » dit la cuisinière. « Il veut vous parler. » Son père était en train de nouer à son cou la cordelière d'une chemise en satinette à pois bleus. Madame Henri l'écoutait, assise sur un fauteuil. Daniel, maussade, la bouche sèche, s'arrêta à l'entrée de la chambre. « Eh bien, » dit Monsieur Henri, « sois heureux, l'amoureux, tu auras ta Berthe. Monsieur Voreau m'a fait visite aujourd'hui au magasin. Qu'est-ce que tu es allé lui raconter hier? Il n'y a rien compris, et moi, je t'avoue que je n'ai pas saisi non plus. Bref, nous avons parlé de ses affaires. Il m'a dit tout de suite que si j'avais la moindre arrière-pensée, il nous rendait notre parole. Il m'a donné des renseignements qui ne m'ont pas déplu. Certainement, ces affaires sont difficiles à liquider, mais, dame, c'est qu'il ne s'agit pas de 4 sous. Le jour où cet homme sera un peu plus maître de la situation, il aura une position magnifique. Entre donc et pousse un peu la porte. J'étais en train de dire à ta mère, mais cela, il ne faut le répéter à personne, qu'il m'avait parlé aussi d'une affaire extraordinaire où il fera son possible pour m'intéresser. Si cette chose réussit comme il croit, et comme je crois d'ailleurs aussi, je n'ose seulement pas dire ce qu'on peut gagner là-dedans. « Ça, » dit Madame Henri, « ça ne m'enthousiasme pas. Je n'aime pas beaucoup que tu fasses des affaires en dehors de ta maison. Tu te rappelles cette coutellerie où tu n'as jamais revu tes 15 000 francs ?»« J'aurais voulu, » répondit simplement Monsieur Henri, « que tu entendes ce Voreau quand il cause affaire. C'est un homme comme il n'y en a pas 3 sur la place de Paris. » Nous avons ensuite parlé du mariage. Nous sommes tombés d'accord que c'était tout de même un peu long de faire attendre ces jeunes gens. Nous allons fixer ça au mois de janvier, du 10 au 15. À moins, ajouta-t-il avec finesse, que Daniel me désapprouve et préfère attendre davantage. Non ? Ah, il est entendu. J'oubliais de te dire qu'ils doivent tous dîner ici après-demain. « Oh !» dit douloureusement Madame Henri, « nous sommes si mal installés. »« Nous sommes à la campagne, » dit Monsieur Henri. « Et d'ailleurs, est-ce qu'on ne trouve pas ici tout ce qu'on veut? Je rapporterai de Paris de mon vin fin 4 bouteilles, ou 6 bouteilles. » Daniel souriait avec effort. Il se sentait lassé, incapable de joie. « Tu vois ?» lui dit encore son père. «
que tout finit par s'arranger.
Chapitre 24. Repas officiel. Le jeudi qui suivit fut un grand jour. Pour la première fois, les Voreau venaient dîner chez les Henri. Mais Daniel n'aimait pas les grands jours. C'était pour lui l'occasion de toutes sortes d'ennuis. D'abord, il craignait que ses parents n'offrissent pas aux Voreau une réception impeccable. Et puis, les invitations n'avaient pas été faites absolument selon ses désirs. On avait bien invité Louise Loison, mais on n'avait rien dit à monsieur et madame Loison, avec qui Daniel avait fait connaissance et qui serait certainement venu de Paris pour assister à cette fête. Daniel, la veille au soir, avait répété à Berthe, à satiété, « Alors, ça ne fait rien que l'on n'ait pas invité les parents de Louise ? Jurez-moi que ça ne fait rien. » Berthe avait répondu, « Puisque ça vous tracasse tant, il fallait les inviter. » Et Daniel s'était désespéré. Autre préoccupation au sujet de la grand-mère de Berthe. Elle avait dit qu'elle viendrait, mais ça n'était pas sûr. Comme elle occupait une des places d'honneur, on n'aurait pas été fâché d'avoir une réponse ferme. Il avait fallu prévoir deux combinaisons de placement des convives pour l'hypothèse où elle viendrait et pour celle où elle ne viendrait pas. Daniel, triomphant des résistances de ses parents, avait réussi à faire inviter son ami Julius, et s'en repentait maintenant. Julius allait certainement le faire rire à table, au moyen de certaines plaisanteries chiffrées, qui paraîtraient certainement insolentes aux deux familles. Daniel passa une partie de la matinée à la cuisine. Il conseilla de mettre autour du filet au madère une garniture qu'il avait beaucoup remarquée chez les Voreau. Des champignons et des truffes, dans des petits ronds en croûte de pâté. La cuisinière n'accueillit pas ses conseils avec une déférence parfaite. « Alors, monsieur se figure donc qu'on ne sait rien faire ici. Si monsieur savait que j'ai resté 6 mois dans un restaurant de Neuilly, ou que l'on servait des fois jusqu'à 2-3 repas de mariage dans la même journée, le filet au madère avec la garniture que vous dites, il ne faudrait pas que monsieur croie que c'est un plat bien sorcier. Mais c'est justement pour la raison que monsieur en a mangé de ce plat chez ces messieurs-dames qu'il ne s'agit pas de leur servir la même chose aujourd'hui et qu'il vaut mieux les changer de leur ordinaire. Et puis d'abord, si monsieur est tout le temps comme ça sur mon dos, il est bien sûr que je ne ferai rien de bon. Si je ne peux pas cuisiner à mon idée, que monsieur prenne donc mon tablier et qu'il cuise à ma place. » Cet ultimatum décida Daniel à quitter la cuisine. L'après-midi, pour se débarrasser de lui, on l'envoya acheter des menus chez le papetier de Bernainvilliers. Ce fut une bonne demi-heure de perplexité. Il dédaigna les petits éventails en carton, estima les papillons trop banals. Son goût personnel le portait à choisir des petits bateaux, où l'énoncé des plats s'écrivait sur la grande voile. Sa mère et sa tante Amélie n'allaient-elles pas les trouver trop excentriques? Il se décida pour des guitares, qu'on lui remit en paquet. Mais à peine avait-il fait 100 pas dans la rue que, saisi d'un remords, il revint échanger les guitares contre de petits chevalets. Il alla chercher Julius à la gare et vit avec satisfaction que son ami avait fait des frais. Il portait une redingote grise et un chapeau haut de forme en bon état. Son col montant surmontait un petit nœud de cravate, qui n'avait que le tort de laisser à découvert une partie du plastron de chemise et particulièrement une boutonnière sans bouton. Mais Daniel trouverait bien un bouton à lui prêter. Il tenait à ce qu'il fût présentable. C'était la première confrontation de son ami et de sa fiancée. « Tu sais, dit-il à Julien, que nous avons d'excellents renseignements sur la situation de M. Voreau. Tu m'as dit des blagues. Il est très riche. » Julius ne répondit pas là-dessus. Il était probable qu'il ne tenait pas à rouvrir un débat aussi peu intéressant. « Alors, dit-il, Nous allons dîner avec la panthère de Java et la pauvre chèvre malade. »
La panthère noire, c'était l'oncle Henri. La chèvre malade, c'était la tante Amélie.
« Écoute, » dit Daniel, « tu me feras l'amitié de ne pas dire des blagues devant ces gens. Si j'ai envie de rire à table, ça sera très embêtant pour moi. »
Cette recommandation était inutile. Julius, railleur impitoyable, avait devant ses victimes habituelles l'air le plus innocent. Et ce n'était pas une fausse attitude. Il ne masquait pas devant les gens, sous un aspect timide, les affûts de sa moquerie. C'était plutôt qu'il tâchait d'oublier hors de leur présence, avec des moqueries rétrospectives, les gaucheries de sa timidité. En rentrant au chalet, Daniel alla jeter un coup d'œil à la table servie et constata qu'elle avait un bon aspect. On avait sorti la belle argenterie, marquée au chiffre des Henri, ainsi que deux surtouts de table, achetés à l'hôtel Drouot. Daniel les trouva très somptueux, trop somptueux même, car leurs écussons portaient une couronne de comte, qui aurait pu difficilement être attribuée aux Henri, même si les initiales qu'elles surmontaient eussent été leurs initiales. Daniel prit sa mère à part.
« Tu as fait chercher du champagne ?»«
Mais oui, tu vois bien qu'on a mis les flûtes. »«
C'est du bon champagne ? Combien coûte-t-il ? »
Il est bon, tu n'as qu'à regarder l'étiquette. »
Daniel lut sur l'étiquette les titres nobiliaires les plus pompeux. Il n'en fut pas plus rassuré, car il avait vu chez l'épicier du champagne à 2,85 qui portait le nom d'un duc.
« J'ai peur, dit-il, qu'il ne soit pas très bon. »
« Il est excellent, que je te dis. » Et puis d'ailleurs, le champagne, j'ai toujours du champagne. Tous les champagnes se valent. Pour ce qu'on en boit, on en boit une flûte ou deux en servant la glace.
Chez Monsieur Voreau, dit faiblement Daniel, il y a des jours où l'on mange au champagne depuis le commencement du repas.
Chez Monsieur Voreau, chez Monsieur Voreau. D'ailleurs, si tu veux mon opinion, je ne trouve pas que ce soit comme il faut de prendre du champagne en mangeant.
« Tu sais, dit Daniel, que ça ne revient pas plus cher de servir le champagne en mangeant. On en boit beaucoup moins que du vin. »
« Il est toujours à croire, ce garçon-là, qu'on veut faire des économies. Est-ce que je ne fais pas les choses convenablement ?»«
Oui, maman, je te demande pardon, dit Daniel en l'embrassant.
Cependant, l'heure s'avançait. Ces messieurs, Monsieur Henri et l'oncle, étaient arrivés de Paris. Ils redescendirent de leur chambre en redingote et en souliers vernis. La tante Amélie, vêtue de faille grise, s'était installée dans le salon. Elle avait dit à plusieurs reprises à Madame Henri, qui surveillait les préparatifs du dîner, « Adèle, veux-tu que je t'aide ?» Adèle avait répondu « mais non, repose-toi. »
Le train avait amené de Paris un frère de Monsieur Henri, un veuf silencieux et une cousine également veuve, deux personnages dont la vie s'affirmait si peu qu'ils paraissaient veufs l'un de l'autre. Tout le monde était assis dans le salon quand on entendit tinter la porte de la grille. C'était les Voreau, qu'on attendait fébrilement depuis 20 minutes. On cessa alors de regarder du côté de la porte vitrée qui donnait sur le perron, et quand le bruit qu'elle fit en s'ouvrant permit à tout le monde de se retourner, on feignit une petite surprise. Les Voreau arrivaient seuls avec Berthe. Louise Loison avait dû retourner à Paris ce jour-là. Quant à la fragile grand-mère, son transport eût exigé un emballage spécial et de trop grandes précautions. Il y eut un moment de confusion. Puis la famille Henri se précipita sur les Voreau pour les dépouiller de leurs habits et se disputaient leurs chapeaux, leurs manteaux, leurs mantilles et leurs voilettes. Après une trêve de quelques minutes, on annonça « Madame est servie ». Et la mêlée reprit de plus belle pour s'emparer des bras des dames et pénétrer dans la salle à manger. Une surprise attendait Daniel et les convives. les serviettes avaient été pliées en éventail et posées sur les verres par l'oncle Émile lui-même, à l'instar des plus élégantes tables d'hôtes de France. Pendant le potage, la conversation fut nulle, et Daniel en souffrit. Placé à côté de Berthe, il avait commencé, selon l'usage, de tendres pressions de genoux. Mais cet entretien secret, si charmant qu'il fût, n'apportait aucun appoint d'animation à la conversation générale. Quand on enleva les assiettes, M. Henri, au milieu du silence, demanda à M. Voreau comment avait été la bourse. M. Voreau répondit « Bien calme, un peu d'affaires seulement sur l'extérieur. » Après cette courte phrase d'armes, les deux jouteurs rentrèrent dans leur camp et laissèrent l'arène libre et déserte. L'oncle Émile ne disait rien. Se ménageait-il ? Fallait-il faire son deuil de ces brillantes ressources de causeur que Daniel avait d'abord redoutées et sur lesquelles il comptait maintenant pour sauver la situation, car tout valait mieux que ce morne silence. Enfin, en versant à boire à Madame Voreau, M. Henri renversa le sel, et chacun put parler de ses superstitions et raconter ses histoires de treize à table. Ils étaient lancés. Daniel, rassuré de ce côté, put s'occuper exclusivement de Berthe et de son ami Julius, qui, assis à la droite de la fiancée, ne lui avait pas encore adressé la parole. S'il disait quelques mots, c'était en s'adressant à Daniel, par-dessus Berthe, comme si la jeune fille n'eût pas existé. Il n'énonçait que des phrases insignifiantes, mais qui n'étaient pas sans le poser un peu, sans attester chez lui quelque supériorité, en consacrant l'infériorité de quelqu'un. « À propos, disait-il à propos de rien, j'ai rencontré hier Mougard au casino. Quel parfait imbécile !» Daniel avait pris dans sa main la main de son ami. Jamais cette main de femme ne lui avait paru si douce à caresser qu'à ce moment, devant un jeune homme de son âge. Il se pencha vers Berthe et lui désignant Julius. « Voilà mon meilleur ami. Il faut que vous l'aimiez. Lui vous aimera beaucoup. » Il se sentait plein d'affection pour eux et les regardait avec des yeux fondants, attendris par son bonheur. Du moment que Berthe était son amie, il lui semblait impossible qu'elle ne fût pas l'amie de Julius. Puisqu'il l'aimait tous les deux, pourquoi n'aurait-il pas été d'accord? Il ne soupçonnait pas qu'il leur plaisait pour des raisons diverses, et qu'il y avait en lui deux Daniel différents, fabriqués l'un par Berthe, l'autre par Julius. Il voulait plaire aux gens pour lui-même, intégralement, et ne réfléchissait pas que son âme véritable était difficile à connaître et à saisir. N'en changeait-il pas constamment? Ne choisissait-il pas, à l'usage de chaque interlocuteur, une face spéciale de lui-même, celle qu'il croyait devoir plaire? Il ne mentait pas, mais il avait des sincérités sur mesure, des sincérités pour dames, pour messieurs âgés et respectables, pour jeunes hommes indépendants. C'est ainsi, par exemple, qu'avec Julius, qui n'attachait qu'un prix médiocre à la bravoure, il dévoilait, il étalait tout ce qu'il y avait en lui de pusillanimité, alors que Berthe ne le connaissait que sous l'aspect d'un garçon pas endurant, chaud de la tête, un peu casse-cou. Il vint s'asseoir après le dîner sur un canapé avec sa fiancée et son ami. Placé entre deux, il souriait d'aise et pensait les unir, n'imaginant pas un instant que peut-être il les séparait. Il ne lui venait pas à l'idée qu'ils fussent jaloux l'un de l'autre et de la domination qu'ils exerçaient sur lui. Pourquoi ne pas se le partager à l'amiable, puisqu'il mettait tant de grâce à se laisser partager par eux? Et même s'il y avait entre eux quelque antipathie, il fallait l'oublier, pour l'aimer plus gentiment et pour qu'il fût plus heureux. Il fut très longtemps à s'apercevoir
que les gens avaient d'autres soucis sur la terre que de s'occuper de son bonheur. Chapitre 25. André Bardot.
Comme c'est venu subitement, se répétait Daniel en rentrant au chalet Pilou après avoir reconduit les Voreaux. Du fond du passé arrivent de brusques tempêtes qui brisent des vitres et font tomber des cheminées. Des secrets funestes que l'on croyait morts et qu'aucune malveillance humaine n'a réveillés se dressent tout à coup dans notre vie tranquille. Après le départ de Julien qui avait disparu sans rien dire pour prendre son train, Berthe était restée quelque temps encore chez les Henri avec sa famille. Elle et Daniel s'étaient assis au bout d'un très long salon qui servait l'hiver d'atelier à Madame Pilou et qui était encombré de coquillages, aussi abondants qu'au fond des mers et plus ornés de miniatures. Daniel avait pris la main de sa fiancée et la pressait dans ses mains. Il n'éprouvait pas à ce jeu une très grande volupté, mais cette attitude leur étant permise, il fallait bien en profiter. Autrement, les parents, assis à l'autre bout du salon, ne les auraient pas trouvés assez amoureux.
« Je n'aime pas votre ami, » dit Berthe.
« Pourquoi ? » demanda-t-il sans trop de regret. À cet instant, il oubliait Julius. Berthe était jolie de partout. Elle avait de tendres yeux, une taille plus souple et d'amusants petits souliers vernis.
« Je ne l'aime pas parce qu'il n'a pas l'air franc. »
Cette remarque fit sourire Daniel. La franchise était la grande qualité de Julius, qui s'était toujours montré incapable de mentir.
Sinon dans les questions d'argent.
« Je ne suis pas contente, » poursuivit Berthe, « que vous sortiez si souvent avec lui. »
« Vous avez tort de dire cela. Lui vous aime beaucoup. Il a pour vous une grande sympathie. »«
Ce n'est pas vrai, » dit Berthe. « Et puis, il doit vous entraîner et vous faire voir des maîtresses. D'abord, je suis sûre d'une chose, c'est que vous avez une maîtresse à Paris. »«
Je vous assure que non, »
dit Daniel, évitant de s'en défendre avec trop d'énergie.
« Vous ne le jureriez pas. »
Il feignit d'hésiter et dit « Je le jure. »«
Vous savez, » dit Berthe, « que si j'apprenais une chose pareille, ce serait fini. Je ne voudrais plus vous épouser. »«
Mais je n'ai pas de maîtresse, »
dit Daniel avec un air de viveur lassé.
« Je puis d'autant mieux vous le dire que si j'en avais une, ça n'aurait aucune importance. Il y a des choses qu'il est difficile d'expliquer à une petite fille comme vous. »
Un jeune homme de mon âge est à peu près obligé d'avoir une bonne amie.
Oui, oui. Alors, quand vous irez passer un après-midi à Paris, au lieu de venir à la maison, on saura ce que ça veut dire.
Mais non, dit Daniel doucement, comme si la galanterie lui défendait de répondre oui.
Il allait environ deux fois par semaine à Paris, mais sa dernière fredaine remontait bien à deux mois. Elle consistait en un séjour d'un quart d'heure dans une maison mystérieuse du quartier Vivienne, en compagnie d'une dame en peignoir bleu à qui il n'avait pas adressé la parole.
« Comment sont-elles, ces femmes chez qui vous allez ?»«
Je vous assure, je ne vais chez aucune femme. »«
Je ne vous crois pas, mais j'admets que vous ne mentez pas, et je vous pose la question autrement pour que vous puissiez me répondre. » « À supposer que vous vouliez me tromper, chez quelle femme iriez-vous »«
Qu'est-ce que ça vous fait ?»«
Ça m'amuse, répondez-moi. Chez quelle femme iriez-vous »«
Chez plusieurs, » dit Daniel. « Des femmes avec qui j'étais en relation avant de vous connaître.
Une grande femme blonde qui demeure dans un hôtel près de l'Arc de Triomphe. »
Cette femme existait. Il lui avait même dit quelques mots un jour aux courses, où elle se trouvait en compagnie d'un camarade de collège qui les avait présentés l'un à l'autre.
« Vous êtes terrible, » dit Berthe. « Et quelle femme encore connaissiez-vous ? »
« Une dame très brune qui demeure boulevard Haussmann. » C'était une dame qui l'avait suivie un après-midi sans lui dire un mot,
jusqu'à une porte qu'il pensait être la sienne. Il s'était proposé maintes fois d'aller interroger le concierge.
Quel âge a-t-elle, cette dame brune?
30 à 35 ans. Aux yeux d'une très jeune fille, il est flatteur pour un très jeune homme d'être à tu et à toi avec une dame plus âgée.
Je suis sûre, dit Berthe, que ces dames sont de vilaines femmes et qu'elles connaissent des quantités d'hommes.
Pas ces femmes-là, dit Daniel.
Et vous alliez chez elles? Vous passiez des nuits avec elles?
Ne parlez pas de ça, dit Daniel d'un air ennuyé et discret.
Je vous assure que toutes ces femmes-là sont bien oubliées et que je ne songe plus à elles depuis que je vous connais.
Quand je pense, dit Berthe, que vous leur avez dit que vous les aimiez.
Je ne leur ai jamais dit ça.
Menteur.
Vous avez tort de ne pas me croire. Je n'ai jamais aimé que vous.
Et vous les embrassiez. Vous les embrassiez, comme vous m'embrassez moi.
Non, ma petite Berthe.
Si, à partir d'aujourd'hui, vous ne m'embrasserez plus.
Vous êtes méchante pour moi, en admettant que je les ai embrassés ainsi, ce qui est faux. Je serais bien excusable, puisque je ne vous connaissais pas.
Mais vous m'avez juré que vous n'aviez aimé personne avant moi. Pourquoi embrassiez-vous des femmes que vous n'aimiez pas? Pourquoi?
C'est alors qu'elle ajouta,
moi, je vous ai bien attendu.
Et c'est alors que Daniel avait dit, en souriant, sans penser à mal et par manière de plaisanterie,
est-ce bien sûr? Est-ce bien sûr que vous m'ayez attendu?
Mais Berthe soudain se tourna vers lui et le regarda en face, en ouvrant largement les yeux pour qu'il pût lire au fond d'elle-même. Pourquoi cette façon grave de répondre à une plaisanterie? Pourquoi prendre à propos d'un badinage ce grand air d'innocente à qui sa conscience ne reproche rien? Daniel pensa à André Bardot. Il se dit « Je suis peut-être en chemin d'apprendre quelque chose. » Et l'instinct diabolique de savoir ne lui permettait pas de s'arrêter sur ce chemin. Et puis, le soir, quand il se couchait, pouvait-il s'endormir tranquille s'il n'avait pas scruté tous les recoins d'ombre? Il regarda Berthe, et sans quitter son ton de plaisanterie, afin que son accusation ne fût pas regardée comme sérieuse si elle était reconnue injuste, il dit en ricanant « Hé hé, André Bardot !» Les paupières de Berthe battirent une fois, puis elle continua à regarder Daniel les yeux grands ouverts. Il sembla pendant 2 secondes qu'elle ne pourrait plus s'en aller et qu'elle n'oserait plus refermer les yeux. Daniel en avait froid partout le corps. Elle sourit enfin et dit « Pourquoi ce nom ?» Mais elle avait souri trop tard, 2 secondes trop tard. Et puis, que signifiaient ces mots « Pourquoi ce nom ?» Elle n'avait donc pas osé le répéter, ce nom ? Le soupçon maintenant avait pris possession de l'âme de Daniel, comme un nouveau patron avec qui ça va changer et à qui on en pourra faire accroire. Autoritaire, il allait tout visiter au passage, peser les réponses, examiner la loi de tous les regards. Elle se força à répéter sa question et dit encore « Pourquoi ce nom ?» Car elle ne pouvait pas battre en retraite ainsi sans avoir de réponse. Daniel répondit « Pour rien. » Et elle s'en contenta. Il cessa de lui tenir la main et s'assit à fond sur le canapé, sans la regarder, les yeux devant lui, sans rien dire. Elle non plus ne disait rien, et ne s'étonnait pas de ce silence subi. Elle n'avait pas assez de hardiesse, sans doute, pour continuer à parler de cela. Et si elle parlait d'autre chose, peut-être l'accuserait-on de tenir à changer de propos. Au bout d'un instant, elle sentit le besoin d'expliquer son silence, en appuyant ses doigts sur sa tempe, comme si elle souffrait d'une migraine. À l'autre bout du salon où étaient les deux familles, la conversation était en train de mourir. et personne, vu l'heure tardive, n'y ajoutait de nouvelles bûches.
« Berthe, nous allons rentrer !»
dit Madame Voreau d'une voix haute. Berthe sembla attendre une intervention de Daniel. Elle répondit enfin
« Oui, maman !»
et fit mine de se lever. Daniel la retint, non par la main, mais du bout des doigts et par le bras, et dit avec précipitation à Madame Voreau « Ah, madame, il n'est pas tard, attendez encore un instant !» « Mais non, madame, il n'est pas tard, » se décida à dire Madame Henri, qui aurait pourtant bien voulu aller se coucher.
« Il faut que je vous parle, » dit Daniel à Berthe.
Elle sourit du coin des lèvres et dit « Parlez ?» Le ton de ce « parler » bouleversa Daniel. C'était le premier mot hostile que Berthe lui eût jamais dit. Elle restait sur la défensive. Elle se défendait contre lui maintenant. L'ami était devenu l'adversaire. Il en souffrit comme de la séparation la plus déchirante. Il regarda autour de lui. Il vit au bout du salon le sourire complaisant de la tante Amélie qui s'attendrissait sur les deux petits fiancés, sur les deux amoureux. Il dit à Berthe avec effort
« Je suis jaloux. »
Elle répondit
« Jaloux ?»
avec un petit étonnement fin. Elle feignait maintenant avec lui, toujours dans l'autre camp, toujours hostile. Il reprit.
« Vous savez de qui je suis jaloux. »
Oh, le geste évasif qu'elle fit, le geste peu sincère. « Je suis jaloux de cette personne que je vous ai nommée tout à l'heure. » Elle répondit. « Vous êtes fou. »
« Écoutez, Berthe, il ne faut pas nier. On m'a déjà dit... On m'a déjà parlé de vous et de cette personne. »
Berthe ne répondit rien.
« Eh bien, ma fille, » dit Madame Voreau, « il faut nous en aller. Ces dames tombent de sommeil. »«
Oh, madame, » dit Daniel nerveusement, « je vous en prie, restez encore un peu. »«
Non, non, » dit Monsieur Voreau, « il est tard, il faut rentrer. »
« Encore 5 minutes !» supplia Daniel.
« Berthe, » dit-il à demi-voix, « répondez-moi quelque chose. »«
Que voulez-vous que je vous réponde ? Il est exact que ce jeune homme m'a aimé, et je crois même qu'il m'aime encore. »«
Mais vous, Berthe, vous !»«
Vous m'avez vu le soir où il est venu dîner à la maison. Vous avez vu comment j'étais avec lui. »
« Je pense bien que vous ne l'aimez plus, » dit Daniel. « Mais vous l'avez peut-être aimé. »«
Jamais, » dit Berthe.
« Jurez-le-moi. »«
Je vous le jure. »
Il resta sombre. Elle n'avait pas bien juré.
Il pensait aussi à d'autres questions, à toutes sortes d'autres questions qu'il n'avait pas posées encore.
« Eh bien, Berthe, voyons, décide-toi, » dit Madame Voreau.
« Je vais mettre mon chapeau, » dit Berthe. Elle alla dans une autre pièce où elle avait laissé sa veste et son chapeau. Elle espérait sans doute que Daniel l'y rejoindrait, mais il ne la suivit pas. Il voulait rester fâché. Il n'irait même pas la reconduire chez elle. Pourtant, il ne put se décider, quand elle revint chercher ses parents, à ne pas les accompagner. Elle partit, il resterait seul avec tous ses soupçons. Il voulait rester avec elle le plus longtemps possible, pour laisser à une explication plus complète la chance de se produire. Sur la route, Monsieur et Madame Voreau marchaient devant. Daniel et Berthe les suivaient dans la nuit, côte à côte. Ils ne lui dirent rien pendant le chemin. Seulement, comme on arrivait près de la maison Voreau, il s'arrêta et l'arrêta sous le dernier réverbère. Il regarda le visage de sa fiancée et lui dit « « Je suis malheureux. » Elle répondit avec un sourire un peu douloureux. « Daniel, mon cher Daniel, moi qui vous aime tant. » Ce n'était pas l'explication souhaitée. Dans le ton de ses paroles, il y avait comme l'aveu de choses inavouées. Daniel en souffrit. Mais sa douleur fut moins pénible, car il lui sembla qu'à ce moment, Berthe n'était plus son ennemie. qu'elle était maintenant de son côté pour souffrir avec lui, pour souffrir de quelque chose qui était dans le passé et qui revenait les affliger d'un malheur commun. Quand Daniel reprit seul le chemin de la maison, une sorte de paix triste était rentrée dans son cœur. Chapitre 26. L'enquête. Quand il arriva chez elle le lendemain, après le déjeuner, elle avait repris son sang-froid. Il n'osa pas revenir sur la conversation de la veille, mais il dit qu'il était triste, que la vie l'affligeait. Elle lui répondait « Vous êtes fou !» ou « Vous savez bien que je vous aime !» Et quand ils furent seuls, il ne refusa pas, quoiqu'il s'en fût promis, les lèvres qu'elle lui tendait. Il avait mal dormi la nuit précédente, et dans la matinée, il avait pris la résolution d'aller trouver André Bardot et d'avoir avec lui une explication. Il lui parlerait, sans se fâcher, mais nettement. Cette démarche lui paraissait très simple, car selon son habitude, il avait imaginé les demandes et les réponses de ce décisif entretien. Il avait décidé de ne pas parler de ce projet à Berthe Voreau, mais il lui était difficile de retenir un secret. Le besoin de parler le harcelait, et il trouvait toujours une bonne raison pour lui céder et rompre le silence. Il s'était aussi juré de ne pas ennuyer Berthe, ayant pour elle une grande pitié. Mais c'était là une de ses promesses magnanimes qu'il n'avait jamais la fermeté de tenir. « J'ai l'intention, dit-il tout à coup, d'aller trouver André Bardot. » Elle se tut pendant un instant, puis elle dit « Allez le trouver ?» C'est en fait sans doute ce raisonnement puéril qu'elle semblerait suspecte en lui déconseillant cette visite. Il répondit du ton le plus naturel « Oui, j'irai. » Puis ils se turent tous deux un temps assez long. Assise près de la fenêtre, elle penchait sur un ouvrage de tapisserie sa tête charmante et impénétrable. Daniel se dit qu'il fallait ne pas avoir l'air fâché et prononcer une phrase quelconque. Il regarda un portrait au mur et s'écria « Comme ce portrait de votre grand-mère ressemble à M. Voreau !» Elle ne répondit rien. Souffrait-elle au fond d'elle-même ? Il en ressentit à la fois un déchirement et un plaisir. Il craignait de la voir souffrir, mais il ne détestait pas le goût de sa souffrance. « Il ne faudrait pas, dit-il, que vous preniez contre vous ce que je vous ai dit tout à l'heure relativement à ma visite à ce jeune homme. « Je ne le prends pas contre moi. Je le pense bien. Si je vais le voir, ce n'est pas du tout pour contrôler ce que vous m'avez dit. Je vais seulement lui demander une explication au sujet de certains racontars que, selon certaines personnes, il aurait fait sur votre compte. » « Allez le voir, » dit-elle encore. « Je n'irai le voir que si vous m'en priez, ma petite Berthe. Vous savez bien que je vous aime et que je vous obéis toujours. » « Si vous avez le moindre soupçon, il faut aller le voir. Seulement, si vous voulez mon avis, je trouve cette démarche ridicule. De quoi ça aura-t-il l'air ?»« Je n'irai pas le voir. » Il venait de se résoudre à un moyen terme. Il interrogerait Julius, qu'il n'avait jamais osé questionner à fond. Mais il ne parla pas de cette démarche à Berthe, qui n'aimait pas Julius et n'eût pas toléré qu'on le mêlât à cette affaire. Un télégramme avertit Julius de se trouver le même soir à la terrasse de la Paix. Il prit le train pour Paris après avoir dîné à la hâte. Il se trouva seul dans un compartiment avec une dame qui lui fit l'effet d'une demi-mondaine très élégante. Elle portait un corsage et une ombrelle en dentelle assortie, et tenait à la main un petit sac en maroquin jaune clair. Daniel s'assit à l'autre bout du compartiment, sur la banquette d'en face, et regarda cette dame fixement. Il avait conçu, ou plutôt rêvé, un plan de campagne. Engager la conversation avec elle, lui proposer de la reconduire chez elle, passer la nuit à sa compagnie, puis se lier d'une façon suivie. Il se voyait son amant attitré, la conduisant au théâtre, où Berthe, à qui on les désignerait de loin, serait navrée de désespoir. Mais il se dit, à quoi bon, Berthe m'aime? Il ne s'agit pas de la dépiter et de me faire aimer d'elle, ce n'est pas la question. Ce qu'il y a de grave, c'est ce quelque chose qu'il y a dans le passé et que rien, rien ne peut effacer. Le train arrivait en vue de la chapelle et sifflait sans relâche, comme un cheval hennit en rentrant à l'écurie. Il passa entre des bâtiments interminables, des fils télégraphiques, de longues suites de wagons désœuvrés et d'innombrables signaux qui n'avaient jamais semblé aussi prodigieusement inutiles. La dame avait tiré une glace de sa poche et se tamponnait doucement le nez avec un petit mouchoir. Quand le train entra en gare, Daniel sauta sur le quai, puis attendit sa compagne de voyage, afin de lui offrir un semblant d'aide pour descendre. Ne sachant par quel bout la prendre, il lui toucha vaguement le bras. Elle remercia d'un signe de tête et se dirigea rapidement vers la sortie. Il pensa à la suivre jusqu'à sa voiture, afin de ne pas perdre toute trace. Mais il aperçut au bout du quai un jeune homme de haute taille à qui elle tendit la main. Puis tous deux s'en allèrent ensemble en causant. Daniel renonça donc à elle et la remit mentalement aux soins de cet inconnu. Julius était installé à la terrasse du café, à côté d'un de leurs vagues camarades communs, un étudiant en médecine d'une trentaine d'années, borgne d'un œil et triste de l'autre, et qui parlait sans relâche, d'un ton las et assuré. Il était prolixe en anecdotes sur le monde médical, sur les nouvelles découvertes et sur toutes choses. Il parlait aussi, avec moins de précision, de ses examens, dont on n'entrevoyait jamais la fin. Daniel, impressionné par sa morne supériorité, avait en lui beaucoup de confiance et l'avait maintes fois consulté au sujet de toutes sortes de symptômes. Daniel fut content de le trouver là pour ne pas être obligé de parler tout de suite à Julius. Le jeune homme borgne leur raconta des histoires d'une femme hystérique qu'il avait connue à la maternité. Puis il dit qu'il n'avait pas été aux courses depuis 3 semaines. Il leur dit encore pourquoi il ne retournerait plus dans un café du boulevard Saint-Michel. À la fin, il se leva pour rentrer travailler. Daniel n'entama pas tout de suite la conversation qu'il avait projetée. Julius et lui examinèrent un maigre vieillard aux longs cheveux bouclés qui se promenait de table en table à pas traînants et montrait des petits miroirs qu'il approchait de sa bouche ouverte et où, d'un dernier souffle de vie, il faisait apparaître l'image d'une femme nue, d'une très pauvre obscénité. Un autre individu, arbitrairement coiffé d'un fez, déroulait sans espoir un tapis à fleurs jaunes. « Tu ne m'as pas dit ce que tu pensais de Berthe Voreau ?» dit tout à coup Daniel d'un air détaché. « Pas mal, » dit Julius. « Je voulais te parler, » continua Daniel. « Tu m'as raconté dans le temps une histoire à propos d'elle et de Bardot. J'ai de bonnes raisons de croire que ce n'est pas vrai. Mais je ne serais pas fâché de savoir de qui tu tiens ça. » « Je te l'ai déjà dit, » répondit Julius. « Je le sais de Bardot lui-même. »« C'est un blagueur, » dit Daniel. « Et un mufle, s'il a vraiment raconté ça. » « Il l'a vraiment raconté, » dit paisiblement Julius, « et il me le raconte environ 4 fois par semaine. Il me rase assez avec ça. » « Qu'est-ce qu'il te dit ?»« Oh, je n'y fais pas attention. » « Écoute, mon petit Julius, c'est toi qui es un mufle de ne pas me parler plus sérieusement de cette chose qui est très grave. Fais-moi le plaisir de laisser ces allumettes tranquilles. » Et il enleva le porte-allumettes où Julius venait de frotter la 10e allumette pour s'amuser à écrire sur la table avec des bouts de bois carbonisés. « Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ?»« Je veux que tu me racontes exactement tout ce que Bardot t'a dit. » « Il serait content s'il t'entendait. car c'est évidemment pour que je te le rapporte qu'il vient m'embêter avec ça tous les deux soirs. D'abord, il y a une chose que tu peux savoir, parce que c'est connu, c'est qu'il a été, pour ainsi dire, fiancé avec Berthe Voreau. Le mariage s'est rompu, à ce qu'il prétend, parce que le père Bardot n'a pas voulu qu'il l'épouse. Mais je crois que c'est le contraire, et que c'est Voreau qui n'a pas voulu lui donner sa fille. Il n'a aucune position.
Qu'est-ce qu'il t'a raconté d'autre ?
Dit Daniel. Il m'a dit toutes sortes de choses sur Berthe, sur la façon dont ils s'étaient connus. C'est Louise Loison qui les a présentés. Et puis, il m'a dit ce qu'ils faisaient ensemble.
Elle a été sa maîtresse ?
Dit Daniel d'un ton calme.
Non, dit Julien. Comment le sais-tu ?
Il me l'aurait dit.
On ne dit pas ces choses-là, dit Daniel.
Si, on les dit. Lui, en tout cas, me l'aurait dit. Il aurait trop tenu à ce que tu le saches, pour t'empêcher de faire le mariage. S'il avait été en droit de raconter quelque chose de ce genre, il n'aurait pas hésité.
Tu me jures que c'est bien ta pensée ?
Je te le jure, dit Julius docilement. Elle n'a pas été sa maîtresse. Il m'a raconté comment il l'embrassait. Elle venait s'asseoir sur ses genoux. Daniel regardait dans le vague devant lui. Si bien qu'un homme qui vendait pour 40 francs une montre et sa chaîne se crut gratifié d'une attention spéciale et dépensa en pure perte un assez long exposé.
« Qu'est-ce que tu me conseilles ? » dit Daniel.
« Ne l'épouse pas, dit Julius. Tu n'es pas forcé de l'épouser. » Deux interminables armées de passants sur le trottoir, l'armée montante et l'armée descendante, se croisaient à la débandade. Un vieux monsieur en chaussons marchait à pas méticuleux avec des pieds informes. Un homme en jaquette, sans linge apparemment, glissait une canne sournoise sous les tables et piquait des bouts de cigarette qu'il empochait avec flegme et beaucoup de douceur.
« Viens-tu au moulin ? » dit Julien.
« Je veux bien, » dit Daniel. Ils montèrent bras dessus, bras dessous, la rue Blanche. Daniel ne sentait pas encore son mal. Il avait plutôt quelques satisfactions, la petite joie perverse d'être en présence d'une catastrophe. Et puis, il n'était pas fâché de tenir un grief certain et sérieux avec lequel il pourrait confondre Berthe. Et puis, c'était aussi l'occasion, toujours tentante, de s'en aller, de n'être plus fiancé. C'était une libération, une porte ouverte. Mais au moulin, sous le vaste hall de plaisir, le décor changea. Il vit avec tristesse la vie qu'il allait reprendre. C'était là-dessus que donnait la porte ouverte. Il avait le droit de sortir, mais vers quelle existence vide et sans amour ? Il quitterait donc une femme qu'il aimait, et pourquoi la quitterait-il ? Un orage avait bouleversé son logis. Un pan de mur était tombé qu'on ne pourrait plus reconstruire. Ne valait-il pas mieux s'en accommoder, et se dire même que c'était mieux ainsi, qu'on vivrait une vie aisée et plus large, moins emprisonnée dans l'austérité ? Berthe lui avait menti. Pour s'épargner la honte d'un pardon, d'une grâce à octroyer, il préférait amnistier d'une façon générale toutes les pauvres petites créatures d'amour. Il ne fallait pas les prendre au tragique. Il résolut de se livrer dès le soir même à la débauche, pour se persuader que la vie n'était qu'une chose frivole.
« Est-ce que la prune vient toujours ici ? » demanda-t-il à Julius.
« Je pense, je l'ai encore vue la semaine dernière. »«
Si seulement elle pouvait venir ce soir, je n'aurais pas cette veine. »
Il eut cette veine, presque au même instant. Il aperçut la prune assise à une table. Mais il ne l'aborda pas. Il ne l'avait jamais vue aussi courte. Comme ses yeux étaient à fleur de tête, et sur ses noirs cheveux luisants, quel petit chapeau de velours grenat ridicule.
Je m'en vais, dit Daniel. Je vais prendre le train de minuit.
Il monta dans un long train morne, presque vide. Il ne choisit pas un compartiment de milieu. Ça lui était bien égal de dérailler ce soir-là. 5 mois auparavant, quand il était revenu pour la seconde fois à Bernainvilliers, il faisait un temps ensoleillé. La Providence mettait sur sa route une jeune fille très belle et très riche qui n'avait jamais aimé que lui. Ce jour-là, il s'était pris à mépriser le bonheur, qu'il trouvait trop rapide et trop facile.